Laudetur Jesus Christus.
Le cabinet de guerre israélien dissous par Benjamin Netanyahou après plus de 8 mois de guerre contre le Hamas. Il est le fruit des tensions internes au sommet de l'État israélien. Nous irons à Tel Aviv au début de ce journal. 9 mois après la visite de Kim Jong-un en Russie, ce sera demain au tour de Vladimir Poutine de se rendre en Corée du Nord, alors que Pyongyang est accusé de fournir des armes à Moscou dans sa guerre en Ukraine. Dans ce journal également, la campagne aux élections législatives en France qui s'est ouverte ce lundi, campagne express sur fond de menaces de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et puis nous irons aussi dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre de nouveaux massacres ces derniers jours. Une flambée de violence condamnée notamment par le pape François.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. Les combats ont baissé quelque peu d'intensité ces dernières heures dans la bande de Gaza. Tsahal a en effet annoncé faire une pause tactique dans son offensive de 8h à 19h tous les jours et ce jusqu'à nouvel ordre. La zone où les bombardements sont suspendus concerne une portion qui mène du point de passage de Kerem Shalom à l'extrême sud de l'enclave jusqu'à un hôpital de Rafah plus au nord. Dans le même temps, le cabinet de guerre israélien a lui été dissous, signe des tensions au plus haut niveau de l'État autour du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les précisions à Tel Aviv de Sandy Fortis.
Benjamin Netanyahou a décidé de dissoudre le cabinet de guerre, un cabinet restreint qui avait été créé peu après le 7 octobre, quand Benny Gantz et Gadi Eisenkot ont rejoint le gouvernement. Les deux hommes ont depuis décidé de le quitter en raison de trop nombreux désaccords avec le Premier ministre israélien. Ils ont rapidement été remplacés par Aryeh Deri du parti religieux Chasse et Tsahi Hanegbi, chef du Conseil national de sécurité. Mais d'autres membres du gouvernement souhaitaient également être admis au sein de ce cabinet de guerre, comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, chef de file du parti Force juive. Une perspective jugée menaçante par des responsables sécuritaires israéliens, poussant ainsi Benjamin Netanyahou à annoncer son démantèlement. Le processus de décision lié à la poursuite de la guerre s'en voit modifié. Le Premier ministre consultera désormais un forum restreint, informel, composé des anciens membres du cabinet de guerre, à savoir notamment le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, pour prendre toutes les décisions relatives à la poursuite des combats. Depuis Tel Aviv, Sandy Fortis, journaliste i24 News pour Radio Vatican.
Et sur le front nord, à la frontière avec le Liban, la situation est, elle, toujours très tendue. L'émissaire du président américain pour le Proche-Orient est arrivé en Israël aujourd'hui avec pour ambition d'inviter les Israéliens à la désescalade avec son voisin. Nous nous défendons contre l'agression du Hezbollah. Il n'y a pas de différend territorial entre le Liban et Israël, a riposté le porte-parole du gouvernement et de l'État hébreu. Selon lui, la milice chiite libanaise aurait tiré plus de 5000 roquettes ou engins explosifs depuis le début du conflit à Gaza en octobre dernier. Au moins 11 personnes retrouvées noyées, plusieurs dizaines de personnes disparues en mer Méditerranée après le naufrage de 2 embarcations. La première d'entre elles a été secourue par une ONG allemande de sauvetage en mer entre les côtes libyennes et l'île italienne de Lampedusa, la seconde par des gardes-côtes italiens au large de la Calabre. Une 60aine de personnes seraient par ailleurs disparues. La plupart de ces migrants étaient originaires d'Irak, de Syrie, du Pakistan ou encore du Bangladesh. Et après ces nouveaux drames, plusieurs agences de l'ONU rappelle ce soir la nécessité d'assurer des parcours sûrs et réguliers pour les personnes qui fuient vers l'Europe afin, je cite, qu'elles ne soient pas contraintes à mourir en mer. 9 mois après la visite de Kim Jong-un en Russie, ce sera demain au tour du président russe Vladimir Poutine de se rendre en Corée du Nord, alors que Pyongyang est accusé de fournir des armes à Moscou pour ses opérations militaires en Ukraine. L'occasion pour les deux dirigeants qui croulent sous les sanctions internationales de renforcer encore leur coopération. À Moscou, l'éclairage de Jean-Didier Revoin.
Vladimir Poutine sera demain en Corée du Nord pour une visite de 2 jours. L'occasion pour le président russe de resserrer les liens avec Pyongyang qui, comme Moscou, fait l'objet de très lourdes sanctions internationales. L'occasion pour les deux pays d'accroître leurs échanges. Même si Moscou l'a démenti, son voisin nord-coréen lui aurait livré des armes pour ses opérations militaires en Ukraine en échange de technologies spatiales après la visite de Kim Jong-un dans l'extrême-orient russe au mois de septembre dernier. À cette occasion, le leader nord-coréen avait affirmé que le développement des liens avec Moscou était sa priorité numéro 1, un partenariat qui s'est traduit en mars dernier par l'utilisation par la Russie de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre un terme à la surveillance des violations des sanctions internationales contre Pyongyang. Cette cette fois. Certains experts prêtent aux dirigeants nord-coréens la volonté d'accroître ses livraisons d'armes à Moscou contre de la nourriture et de l'énergie. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et ce week-end, la Suisse abritait une conférence internationale sur la paix en Ukraine. Comme observateur indépendant, le Saint-Siège y était présent, représenté par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. Le Vatican qui s'est dit prêt à faire sa part et encourage chaque État à explorer les moyens de fournir une assistance et de faciliter la médiation sur les doubles plans humanitaires et politiques. Cette conférence en Suisse qui a abouti à zéro résultat, dénoncé le Kremlin ce matin, la Russie qui n'était pas conviée. Le secrétaire général de l'OTAN accuse, lui, de son côté, la Chine d'alimenter le plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale en soutenant Moscou. Pékin qui fournit notamment des composants électriques essentiels dans l'effort de guerre russe en Ukraine. Ouverture de la campagne aux législatives en France, où la liste des candidats pour ces élections anticipées close depuis hier soir minuit après la dissolution décidée par le président Macron le soir même des européennes dimanche dernier. Les partis politiques français ont eu une semaine seulement pour se mettre en ordre de bataille en vue du premier tour le 30 juin prochain. Une semaine pour le moins riche en rebondissements, surtout à droite, où le parti des Républicains s'est déchiré. Le ralliement du parti, du président du parti au Rassemblement National de Marine Le Pen est le principal fait de la semaine passée. Est-ce une rupture dans l'histoire politique française? L'éclairage de Vincent Martini, il est professeur de sciences politiques à l'Université Nice-Côte d'Azur et à l'École Polytechnique.
C'est à la fois une continuité, puisque ça fait maintenant des années qu'on voit bien un glissement des valeurs et des prises de position de certains leaders des Républicains qui, depuis Nicolas Sarkozy, surtout la partie 2012, la campagne de Nicolas Sarkozy pour sa réélection, avait très largement droitisé la droite et avait fait des clins d'œil appuyés au Rassemblement national et à ses idées. Mais en même temps, les leaders des Républicains avaient toujours défendu l'idée qu'il n'y aurait jamais d'alliance avec le Rassemblement national. Donc oui, là, il y a une rupture totale dans l'histoire politique de la droite française et dans l'histoire de la vie politique française. Et la deuxième raison pour laquelle cet événement est très important, c'est que dans l'histoire de la Ve République, une famille politique seule, très rarement arrivée au pouvoir, sans coalition. Donc le fait de s'afficher comme un alliage entre la droite et l'extrême droite permet à la fois de créer un narratif qui est peut-être plus rassurant pour les électeurs de droite, de se dire que une partie de leur famille politique sera liée au gouvernement, mais ça peut créer d'une efficacité électorale dans certaines circonscriptions, si vous voulez, où le Rassemblement national n'aurait pas parvenu à obtenir 50% des voix.
Donc... Le politiste français Vincent Martini, interrogé par Xavier Sartre. Un dîner important et stratégique ce lundi soir à Bruxelles. Les 27 vont en effet discuter de la répartition des principaux postes au sommet de l'Union européenne. Réunion informelle qui est le premier rendez-vous pour les chefs d'État et de gouvernement des 27 après le scrutin des 6 et 9 juin qui a été marqué par une poussée de l'extrême droite dans plusieurs pays, dont la France, on l'a vu, et également l'Allemagne. À la une de l'actualité africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne fermement ce lundi de nouveaux massacres commis par une rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo. Des massacres qui ont fait au moins 150 morts depuis le début du mois de juin. Une condamnation, Jean-Benoît Harel, qui rejoint l'appel lancé par le pape François hier après la prière de l'Angélus.
Je lance un appel aux autorités nationales et à la communauté internationale afin qu'elles fassent tout leur possible pour mettre fin à la violence et à préserver la vie des civils. Hier, le pape François, lors du traditionnel Angélus dimanche, a alerté la communauté internationale sur la situation des habitants de l'Est de la RDC. En effet, des tueries attribuées au groupe ADF, affilié à l'organisation djihadiste État islamique, se sont répétées depuis début juin, la dernière faisant au moins 42 morts dans la nuit de mercredi à jeudi. Une hausse des attaques de villages, de voyageurs sur les routes proches de Beni, mais aussi des pillages dans les centres de santé. Le groupe terroriste d'origine ougandaise organise ses massacres au Congo depuis 2018, provoquant de nombreux déplacements de population. L'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés dénombre plus de 6 millions de réfugiés dans cette région et décrit une situation humanitaire très difficile. Alors dans son appel, le pape a estimé que parmi les victimes, il y a de nombreux chrétiens tués en raison de la haine envers leur religion. Ce sont des martyrs, a-t-il insisté, dans ce pays comptant environ 50 millions de catholiques sur 100 millions d'habitants. Avant la condamnation par l'Union africaine, aujourd'hui, le gouvernement congolais avait de son côté assuré de sa détermination pour lutter contre ces actes barbares.
Merci beaucoup Jean-Benoît Harel. Avant de refermer ce journal, sachez que ce matin, matin une nouvelle réunion du C9, le Conseil des cardinaux, chargé d'aider le pape dans la réforme de la curie et dans le gouvernement de l'Église, a débuté en présence du Saint-Père au Vatican. Il s'agit de la troisième réunion de cette année 2024, après celle de février et d'avril. La dernière réunion s'était notamment concentrée sur le rôle et la contribution des femmes dans l'Église, le pape et les cardinaux qui seront encore réunis demain. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente soirée.